jusqu'à 12h30, Allo Bouvard sur RTL.
Des petites nouvelles. Les Américains ont inventé un dispositif capable de transformer la sueur humaine en énergie électrique. Dommage que la mesure soit discriminatoire, puisque ceux qui ne travaillent pas sont condamnés à demeurer dans l'obscurité. À l'intention des femmes fréquentant des hommes trop timides pour demander certains contraceptifs à leur pharmacien, la marque française Ma Petite Culotte vient de créer un sous-vêtement féminin doté d'une petite poche pour entreposer, à tout hasard, un préservatif. Alors, j'ai gardé pour la bonne bouche les lunettes intelligentes. Oui, plus intelligentes que ceux qui en font emplette, car elles sont assorties d'un gyroscope, d'un GPS, d'une boussole, d'un capteur de luminosité et d'une mini-caméra située dans le verre gauche. À déconseiller aux myopes possédant un appendice nasal trop mince pour constituer un support suffisant.
Nous accueillons Philippe Claude qui habite Paris.
Bonjour Claude.
Bonjour Philippe.
Quel est votre sujet?
Ah bien écoutez, si vous le pouviez, je serais très heureuse et je pense les auditeurs aussi que vous nous parliez de ce qu'on appelle les infections nosocomiales.
Ah oui, dites donc. C'est un nom un peu barbare, très technique, hein. Mais je crois que, hélas, le nombre d'accidents a permis aux Français de connaître sa signification. Et ce sont des accidents, parce que souvent c'est très grave, qui sont impardonnables, hein, puisque, je le rappelle, c'est le fait qu'entrer dans un établissement hospitalier pour soigner une certaine maladie, on en ressort, dans le meilleur des cas, mais pas toujours, avec une autre maladie qu'on a contracté dans ce milieu hospitalier. Vous êtes sensibilisé à ces accidents?
Ah oui, tout à fait. D'abord parce que je suis responsable d'une association qui lutte contre les infections nosocomiales depuis l'affaire de la clinique du sport. Donc ça remonte à 98, ça s'appelle le lien. La clinique du sport, c'était une bactérie qui s'appelle le Xénopique qui était dans l'eau.
Ah, oui.
Et les instruments qui servaient à des interventions d'orthopédie chirurgicale.
Comment êtes-vous venu à la défense de cette cause?
Alors ce sont à l'origine, si vous voulez, les victimes qui étaient nombreuses et en un même endroit, donc dans cette clinique, se sont regroupées et ont créé cette association parce que Alain-Michel Ferretti, qui était l'époux d'une de ces victimes, a pris conscience de ce phénomène que vous avez dit, difficile à dire, infection nosocomiale. Elles ont été appelées nosocomiales parce que nosocome, ça veut dire qui est acquis à l'hôpital.
Et il y a 5% d'accidents, ce qui est déjà énorme. Hein.
5% de patients qui sont infectés, ça veut dire 1 sur 20 qui rentrent
oui,
à l'hôpital.
C'est beaucoup. Mais sachez qu'en Italie, il y en a 7 et qu'aux États-Unis, il y en a près de 10%. C'est pas pour ça qu'il faut se féliciter qu'il y ait 5% d'accidents. Est-ce que depuis qu'on a sensibilisé pas seulement le public, mais surtout le personnel soignant à ces problèmes, on a fait des progrès d'hygiène qui ont permis de réduire le taux.
Sûrement, il y aurait beaucoup plus de 5000 morts par an si toutes les mesures qui ont été prises, notamment des mesures de prévention sur le lavage des mains, n'avaient pas
été... Attendez, là, ça paraît insensé qu'il faille rappeler aux gens qui prodiguent des soins à des malades que la première précaution d'hygiène consiste à se laver les mains.
Oui, pas seulement se les laver, Philippe. Un patient qui vient vous faire un soin, qui veut faire un pansement ou qui travaille au bloc opératoire, un personnel qui porte des bijoux est un personnel dangereux. Et ce que les auditeurs doivent bien entendre, c'est que si on vient leur faire un pansement ou leur poser une perfusion avec des mains qui sont porteuses de bijoux, même lavées, elles sont dangereuses, ces mains-là. Donc nous avons aussi fait campagne sur zéro bijou à l'hôpital, quoi, symboliquement.
Le personnel soignant prend de grandes précautions. Les chirurgiens qui opèrent en prenaient déjà depuis très longtemps. Hein.
Oui, les chirurgiens qui opèrent en prennent beaucoup. D'ailleurs, ils portent 2 paires de gants, ils les changent très régulièrement. Il y a énormément, en chirurgie, il y a énormément de mesures au bloc opératoire. Le bloc opératoire est un lieu aujourd'hui où il y a un maximum de précautions qui sont prises.
Il y a une liste de maladies nosocomiales et je crois qu'il y a souvent la septicémie. Hein.
Oui, La septicémie, c'est ce qu'on a fait partie de ce qu'on appelle le sepsis. Alors là, c'est autre chose, parce que dans le sepsis, il n'y a pas que celles qui sont acquises à l'hôpital. Il y a aussi des infections graves, sévères, qui viennent de ville, parce qu'on s'infecte chez soi. Et là, alors là, le nombre de morts a été estimé en 2004 à 30 000 par an. Et c'est un phénomène très peu connu.
Est-ce qu'il n'y a pas des antibiotiques beaucoup plus puissants ?
Alors voilà, vous touchez le point sensible là, Philippe. On voit que vous êtes un grand connaisseur. Les antibiotiques, notre problème aujourd'hui, c'est que les bactéries sont de plus
s'habituent.
Oui. Et que les antibiotiques doivent être utilisés à très bon escient. Hein. Et ça, c'est, on va repartir en campagne là-dessus, parce qu'on continue d'avoir des prescriptions d'antibiotiques qui ne sont pas nécessaires et qui aggravent la résistance bactérienne. Ça, c'est un vrai sujet. Non pas seulement des professionnels, c'est un sujet aussi pour le grand public.
Il y a eu des gens très connus qui ont été victimes de maladies nosocomiales. Il y a quelqu'un qui a payé ce péril de sa vie, c'est Guillaume Depardieu.
Tout à fait, Guillaume a été profondément atteint. Puisqu'il est allé jusqu'à choisir l'amputation pour arrêter les douleurs, parce qu'il était victime d'une infection grave osseuse qui mange l'os, quoi, si vous voulez.
Et puis, il y a notre Johnny National.
Et notre Johnny, avec son problème, effectivement, de bactéries.
La maladie nosocomiale, il l'avait contractée en France, puisque après, il a été hospitalisé aux États-Unis. Hein.
Voilà, absolument.
Quand on rend visite à un malade dans un grand hôpital, on comprend mal que les maladies nosocomiales puissent encore subsister, parce que on est vraiment protégé, on vous met un bonnet, on vous enveloppe de papier isolant, parfois vous avez un masque, on prend toutes sortes de précautions qu'on ne prenait pas voilà encore deux décennies, hein.
Ah oui, tout à fait, mais il y a aussi des populations qui sont plus exposées que d'autres, c'est-à-dire tous les patients qui ont des déficiences sur le plan immunitaire, qui ont des défenses moins actives.
Et est-ce que ça ne risque pas de créer des psychoses ?
Je ne pense pas. Je pense que justement, nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés aux risques infectieux, parce que le premier traitement, on va le répéter, il est encore préventif. C'est l'hygiène, c'est le lavage des mains, et on ne se lavera jamais assez les mains, ou bien l'utilisation de solutions hydroalcooliques. Ça, c'est très important, chez soi comme à l'hôpital.
Écoutez, si la solution est alcoolique, alors il y a de nombreux Français qui vont la pratiquer.
La France, hein, je dirais.
Bon, voilà. Pressons-nous de rire de peur d'avoir à en pleurer, comme disait notre ami Beaumarchais. Et un grand merci, Claude.
Merci, Philippe. Au revoir.
11h30, 12h30, Allô Bouvard sur RTL. Allô Bouvard sur RTL.
Deux petites nouvelles concernant les bébêtes. D'abord, pour épargner aux animaux le désastreux spectacle de l'espèce humaine accourue pour les regarder, un zoo danois a substitué aux grilles de ses cages des miroirs sans teint. Ensuite, les autorités helvétiques envisagent d'imposer aux ménages la politique du chat unique afin d'endiguer la surpopulation féline recensée pour la première fois voilà quelques semaines, très exactement à la mi-août.
Allez Philippe, nous repartons au standard 2 à Allô Bouvard avec l'appel cette fois-ci de Déborah, 29 ans, animatrice dans un club de vacances et habite Paris.
Bonjour Déborah.
Oui, bonjour Philippe. Alors ma foi, j'aurais une petite question pour vous parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de divorces et du coup je voulais voir quel était votre point de vue sur l'évolution du couple.
Ah. Vous êtes dans quelle situation de famille vous ?
Moi je suis en couple, on n'est pas mariés mais peut-être un jour, peut-être.
Bon, vous n'avez pas été mariés ?
Jamais.
Jamais. Vous avez déjà d'autres vies de couple à votre actif ? Pardon d'être un peu indiscret. Hein.
Oui, j'étais en couple une fois seulement avant, j'ai
une
que 29
fois.
Ans.
Donc on peut considérer que vous avez été marié deux fois derrière la mairie, quoi.
En quelque sorte.
Bon, vous avez la sensation personnelle qu'il est très difficile de vivre à deux aujourd'hui.
Oui, de s'engager, de voir sur du long terme, ça devient de plus en plus difficile. Oui. J'ai l'impression.
Et quel est votre avis, Isabelle ?
Alors écoutez, c'est très... Déborah, je suis désolée. Moi, je suis plutôt plus pour chacun chez soi. Et voilà.
Ah, chacun chez soi.
Ça, ça dure plus longtemps comme ça.
C'est-à-dire on appelle ça les non-cohabitants.
Exactement.
Dites donc, ça demande des moyens, parce qu'au lieu de payer un loyer, on en paye deux.
Hein. Oui, je sais, mais bon. C'est comme ça.
Mais parce que, bon, on s'épargne la promiscuité de la vie quotidienne.
Exactement.
Bah oui, mais deux salles de bain, ça coûte plus cher qu'une seule.
C'est vrai. Mais voilà. Le chacun chez soi, ça marche mieux, je trouve.
Mais vous êtes mariée, vous ?
Non.
Non.
Je suis comme Déborah.
Vous l'avez été ?
Non.
Vous avez des projets ?
Non. Ou alors avec vous, mais je ne sais pas si vous êtes disponible, Philippe, on peut peut-être faire quelque chose.
Non, ben moi, je ne suis pas un exemple, parce que je donne l'impression d'être...
Vous êtes déjà pris, déjà.
Ben non, j'ai 61 ans de mariage.
Voilà. Bravo, félicitations.
Ouais. Oui, oui. Il paraît que c'est assez rare. D'abord, il faut vivre assez longtemps. Ensuite, il faut avoir une femme qui est vivante aussi. Ça aide. Hein.
C'est vrai.
Déborah, vous connaissez la statistique. Hein. Un mariage sur trois est rompu en France par un divorce. Et à Paris, c'est un mariage sur deux. Bon, c'est considérable. Hein. Et la durée moyenne d'une union est de 5 ans. Comme le quinquennat du président, d'ailleurs, 5 ans. Hein. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut en accuser, ou en tout cas, à qui faut-il faire porter le chapeau ? Bah, d'abord, je pense à l'augmentation de l'espérance de vie. Quand au Moyen-Âge, on vivait 40 ans, on n'avait pas le temps de divorcer. On n'avait même pas le temps de se fâcher avec ses amis. C'était la belle époque. Bon. Aujourd'hui, à votre avis, quelles sont les causes principales du divorce, Déborah ?
Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a... Moi, je trouve que dans les grandes villes, il y a peut-être trop de tentations. Trop de monde, trop de tentations, je pense ça.
Alors, vous, les tentations, vous les trouvez où ? Dans les transports en commun, dans l'immeuble, au bureau ?
Bah, plutôt non, plutôt en sortant le soir.
Ouais.
Voilà, c'est plutôt dans ce style-là. Je pense que aussi bien les hommes que les femmes, voilà, on est apprêtés, on sort, on est tous beaux, tous contents d'être. Et puis voilà, peut-être que ça peut déraper.
Vous devez avoir raison parce que en milieu rural, où par définition il y a moins de tentations, il y a moins de divorces. Hein. Et puis bon, parce que le qu'en dira-t-on il est peut-être plus difficile d'aller lutiner la boulangère. Ça se sait tout de suite. Mais de toute façon, bon, la vie de couple et la vie sexuelle n'existeraient pas sans tentations et des tentations à laquelle on a succombé. Ça fait partie de la vie. C'est pas le plus désagréable de succomber à la tentation.
Ah non, ça, faut pas dire ça, hein, bien sûr. Mais bon, par rapport au conjoint, c'est pas toujours facile.
Oui.
Si ça arrive.
Faut compter avec la jalousie. Vous êtes jalouse, vous ?
Oh là, énormément.
Énormément. Bon. Et lui, il est jaloux ?
Il le montre pas, mais je le sais, oui.
Bon. Donc, vous le surveillez, vous regardez le journal d'appel de son portable, non ?
Non, mais j'écoute d'une oreille quand il est au téléphone.
Ah oui, d'accord.
Attention.
Et vous lui demandez qui l'a appelé ?
Non, je n'ai pas besoin de lui demander, je comprends.
Ah. L'intuition féminine.
Exactement.
Vous vérifiez le soir quand il rentre qu'il n'a pas un cheveu sur le revers du veston ou une trace de rouge à lèvres sur la chemise ?
Non, j'en suis pas là. Et puis de toute façon, si c'était le cas, il ferait attention. Hein, me connaissant, il ne rentrerait pas dans cet état à la maison.
Oui.
Le parfum, tout ça.
Voilà.
On retrouve Philippe Bouvard au 3210 avec vous, bien sûr, dans un instant.
Allô, Bouvard, sur RTL.
La jalousie est quand même, et vous l'avez bien noté, un des motifs de divorce.
Ouais.
Alors, il y en a d'autres. L'incompatibilité d'humeur, ça existe, hein, ça. Bon.
Ouais.
L'attirance physique qui diminue, ça aussi, ça fait partie du jeu normal. Hein.
Ouais.
Ah, vous avez un truc, vous, pour que l'érosion ne se produise pas sur ce plan-là ?
Moi, j'aime bien organiser des petits week-ends, des longs week-ends de 3 jours. Peut-être tous les 2 mois, on part quelque part.
Ouais,
un petit week-end à Rome, un petit week-end à Barcelone, quelque part,
ouais.
Pas trop loin, mais
Mais autrement, sympa. Au quotidien, vous faites confiance au dîner aux chandelles, à la nuisette ?
Oh, les petits dîners aux chandelles, oui, de temps en temps, mais bon, pas trop hein, non plus.
Non, bah non, mais enfin, voilà. Ça diminue la note d'électricité. Ensuite, il y a l'éducation des enfants qui peut provoquer des tensions au sein du couple. Il y a les divergences sur le plan politique. Oui.
Ah oui, ça c'est vrai.
Et les ronflements la nuit, Philippe?
Oh là là,
ah
oui.
Déborah.
Ah oui, ça je connais, ouais.
Mais voilà.
Il y a l'argent, hein. Ah oui. Alors ouais. L'argent, s'il y en a un qui gagne plus que l'autre, ça vous paraît dissuasif?
Oui, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des tensions, effectivement.
Il y a les conseils que donnent les spécialistes du couple, qui d'ailleurs souvent sont divorcés et vivent seuls. Ben, il y a le fait qu'il faut être à l'écoute de l'autre, il faut respecter l'autre. Enfin bon, ça, la palisse n'aurait pas dit mieux. Hein. Il faut avoir confiance en l'autre. Et c'est là d'ailleurs où les jaloux dérapent, hein, parce qu'ils n'ont plus confiance. Hein.
Vous êtes jaloux, Philippe, vous ?
Non, je suis pas jaloux parce que j'aimerais pas qu'on soit jaloux vis-à-vis de moi, mais j'atteins un âge où il y a beaucoup de choses qui disparaissent, dont la jalousie. Et vous pouvez pas vous imaginer comme c'est agréable. Bon, les caractères qui s'accordent pas, bon, ça, c'est, il faudrait mieux s'en rendre compte avant. C'est pour ça que l'essai prénuptial n'est pas mauvais, hein.
Oui, c'est sûr, ouais.
Le mais fait bon. Vous allez régulariser un jour ?
Eh bien, sûrement, mais je ne sais pas si ça sera avec lui.
Ah, vous n'êtes pas sûr que ce soit...
Non, mais je l'aime beaucoup, c'est ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il manque ce petit truc que ce n'est pas l'homme de ma vie. Je me trompe peut-être, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, peut-être qu'à 29 ans, j'ai encore d'autres personnes à rencontrer. Hein.
J'espère qu'il n'écoute pas la radio, là.
Il est au courant, il est au courant de vos projets.
Non, on en a déjà parlé, enfin...
Lui a envie de se marier, peut-être.
Pas forcément se marier, peut-être se paxer ou quelque chose ça, oui. Peut-être dans les années qui viennent, oui.
Bon, ouais, Déborah, ouais. C'est foutu à la fin de l'émission, là, hein, je crois.
Non, mais il écoute pas, là.
Et alors, vous lui dites d'accord pour le mariage, mais ça sera pas avec toi.
Voilà.
Ça met du liant dans le dîner le voilà. Soir. Il y a d'autres causes encore. Le mariage précoce, vous savez, c'est notamment ces filles qui se marient très tôt et avec le premier venu pour échapper aux parents. Bon, ça ne dure pas très longtemps. Il y a les beaux-parents envahissants.
Ah oui.
Ça existe. Hein. Bien qu'il paraît qu'aujourd'hui, les jeunes femmes téléphonent un peu moins à leur maman, mais comme elles leur envoient des textos, ça ne change pas beaucoup de choses. C'est l'infidélité qui est quand même la raison principale. Elle vient avant tout. Évidemment, l'infidélité qui est exacerbée par la jalousie, puisque sans la jalousie, souvent, on ne serait pas au courant. Hein. J'ai le portrait robot de l'homme infidèle. Vous allez me dire si... Il ressemble à votre compagnon.
Attention, Déborah.
Ok, allons-y.
C'est un quadragénaire. Bon, ça correspond pour l'âge.
Il vient d'avoir 40 ans.
Ah là là.
Il a les cheveux châtains, plutôt courts.
Oui.
Il mesure 1m80. Il pèse 90 kilos.
Ouais.
Il est du signe du taureau, et ajouterait la Spalès, il doit être marié avec une femme qui est du signe de la Vierge.
C'est ça.
Et j'allais oublier, il est marié souvent, ce qui n'est pas votre cas. Mais enfin, l'infidélité, elle peut exister entre gens qui vivent ensemble. Le pax a beaucoup de succès, un peu moins que le mariage, mais le dernier venu, mariage pour tous, n'est pas tellement pratiqué. Hein. On pouvait s'attendre à, étant donné le retard qu'on a pris, notamment à l'égard de certains pays limitrophes, on pouvait s'attendre à une vague de mariages entre personnes du même sexe. Ben non. Et il y a seulement 2900 communes en France. Je vous rappelle qu'il y en a quand même, si mes souvenirs sont exacts, 36 000, qui ont célébré un mariage entre personnes du même sexe. Vous auriez, vous, épousé une amie ?
Bah, une amie, non. Une amoureuse, oui. Si j'avais été, évidemment, homosexuelle, oui, je l'aurais faite. Si c'est par amour, vraiment, s'il faut qu'il y ait des raisons, bien sûr. Si c'est juste pour les papiers, non, pas forcément.
Non. Vous êtes allé déjà à un mariage pour tous ?
Non, jamais.
Non. Bon, mais pourquoi pas, hein. Il y a quand même eu en France, en 2013, 231 000 mariages de sexes différents, précise la statistique, parce que maintenant, bon, si on n'ajoute pas cette précision, on ne sait pas qui ça concerne. Et évidemment, il y a eu un grand nombre de divorces, mais comme il y a des remariages, Il y a beaucoup de gens qui sont déjà deux ou trois fois divorcés, hein, et qui ne sont pas très vieux. Donc on peut considérer, pour reprendre votre phraséologie, qu'ils ont fait leur plein de tentations. Hein,
c'est ça.
Et que ce sont des vies mieux remplies que certaines. Hein,
oui, j'imagine, ouais.
Puisque le bonheur est affaire de comparaison. Pourquoi rester avec un seul partenaire, hein? Merci Déborah, merci.
Merci beaucoup Philippe.
Philippe, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve samedi prochain.
Samedi prochain et dimanche prochain. Merci Isabelle, merci à tous.
Très bon dimanche, il est 12h30.